Deuxième. Lorsque nous avions quitté Jésus la semaine passée, celui-ci venait de définitivement couper les ponts avec les responsables de la nation juive, le Sanhédrin. En effet, après un vif échange sur l'origine du ministère de Jean-Baptiste, Jésus avait définitivement posé un jugement irrévocable sur l'attitude des chefs des Juifs en leur enseignant la parabole des vignerons. Dans cette parabole, Jésus leur annonce que l'héritage qui leur était promis serait donné à d'autres, qui, eux, en seront dignes et en porteront les fruits. Il n'y aura plus dès lors de retour en arrière. Jésus sait qu'ils vont l'arrêter et le mettre à mort lorsque son heure sera venue. Je vous avais dit que toutes les factions religieuses et politiques se ligueraient contre Jésus. Nous allons en avoir la preuve avec l'altercation suivante, reprise par Marc dans son évangile. En effet, à peine Jésus en a-t-il fini avec le Sanhédrin, que celui-ci lui envoie à présent des pharisiens et des hérodiens. Je vous propose donc de prendre ce passage que l'on trouve donc dans le chapitre 12 de notre évangile de Marc. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit « Pourquoi me tendez-vous un piège ? Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. » Ils en apportèrent une. Jésus leur demanda « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ?»« De l'empereur, » lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. S'il n'apparaît peut-être pas à première lecture, faute de renseignements, c'est qu'il n'y a pas plus opposé que les pharisiens et les hérodiens. En fait, ils ne sont en accord sur rien, que ce soit en termes de vécu religieux ou autre, ou en termes d'objectifs ou d'ambitions politiques ou pour la nation juive. Ce qui prouve que quand on a des intérêts communs, en l'occurrence ici, faire taire Jésus, le prendre au piège, on peut bien arriver à s'entendre. Les hérodiens, comme leur nom l'indique, étaient des partisans d'Hérode, lui-même vassal de Rome. Ces deux parties ne coopéraient que dans des situations extrêmes, et donc le cas Jésus est une situation extrême, car la lecture des événements et leurs intérêts étaient aux antipodes. Mais commençons par le commencement. Quelques mots tout d'abord sur Hérode. Il ne s'agit pas ici, bien entendu, d'Hérode le Grand, roi de Judée, lors de la naissance de Jésus. On est quand même une trentaine d'années plus tard. Mais il s'agit d'un de ses fils, Hérode Antipas, dit le Tétrarque, qui l'eut avec sa quatrième épouse, Maltas, qui était samaritaine. Ça, c'est pour l'info. Ce qui fait qu'Hérode Antipas n'eut probablement pas la moindre goutte de sang juif dans les veines, et de là aussi parfois son rapport difficile avec le peuple juif. Il faut en effet savoir que sa famille, d'origine iduméenne et l'Idumée, mais déjà peut-être la suivante si tu veux, l'Idumée, c'est la région ici, vous voyez, dans le sud, au sud de la Judée. Jusque première moitié du deuxième siècle avant la naissance de Jésus, cette région appartenait donc aux Iduméens. Il y avait un roi sur le trône. Seulement, il y eut une guerre en Judée. Une guerre menée par Jean Hyrcan. Je vous passe les détails. J'y reviendrai peut-être un peu tout à l'heure si on a le temps. Et donc, Jean Hyrcan, qui était donc grand prêtre à Jérusalem, a conquis le sud de la Judée, donc l'Idumée. Et il a obligé la famille iduméenne, la famille royale iduméenne, à se convertir au judaïsme, à se circoncire, etc. Envers, en fait, c'est le territoire d'Israël, si on peut appeler ça comme ça à l'époque, au moment où Jean Hyrcan prend ses fonctions, et en mauve, c'est tout ce qu'il a mangé, peu après. Donc il a bien travaillé, Jean Hyrcan, je pense. Alors ce qui est très intéressant à relever, pour l'anecdote historique, hein, c'est qu'après qu'on ait tenté de convertir les Juifs à la culture grecque, hein, le roi de Syrie qui était grec, etc., ce sont à présent les Juifs qui imposent la conversion à d'autres peuples. C'est aussi, pour la petite histoire, à Jean Hyrcan, c'est aussi Jean Hyrcan, pardon, qui détruisit le temple des Samaritains sur le mont Garizim. Vous saviez sans doute que les Samaritains avaient un temple à eux jusqu'à ce que Jean Hyrcan ne le démolisse, puisque eux ne considéraient comme inspiré dans les Écritures Ancienne Alliance que les cinq livres de Moïse et pas le reste. Ce Jean Hyrcan était le deuxième fils de Simon Maccabée et devint grand prêtre donc à Jérusalem. La famille d'Hérode n'était donc juive que nommément, même s'il descendait du peuple d'Édom, dont l'aïeul fut Ésaü, le frère aîné de Jacob, le gars qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Vous suivez? C'est bien que c'est de l'histoire, mais il faut en faire si on veut faire parler la parole de Dieu. Quant au titre tétrarque qu'on donnait à Hérode Antipas, c'est celui que l'on donnait au roi de second ordre, pardon, subordonné à une puissance supérieure, ici donc Rome, et ainsi nommé parce que leurs états étaient censés faire à peu près le quart, tétra en grec, de leur royaume démembré. C'est clair qu'à la base, Israël, c'est bien plus grand que simplement la Galilée sur laquelle il règne. Il règne donc sur plus ou moins un quart de l'ancien territoire d'Israël. Donc Hérode régnait dans les faits uniquement sur le nord, à savoir la Galilée. Il faut savoir tout ça, si, pour bien comprendre le problème que Jésus posait aux deux factions qui se présentent à lui. Les Hérodiens, les supporters d'Hérode Antipas, espéraient une restauration du règne des Hérodes en Judée et à Jérusalem. Jérusalem qui était à l'époque, la Judée comprise, régie par Pilate, un procurateur romain. Ce qui signifie que les Hérodiens étaient toujours passablement perturbés et embêtés par les messies en tout genre qui mettaient en péril leur vue d'un règne élargi de leurs poulains. Parce que, évidemment, si leurs poulains régnaient sur toute la région, sur tout Israël, ils en auraient retiré des avantages non négligeables, vous l'aviez compris. Ils n'aimaient pas les messies sortant de terre, car des troubles causés par des juifs ou de pseudo-messies signifiait le risque d'une mainmise encore plus grande de Rome sur la région. Ben, Rome réprimait, c'est ce qui se passera en l'an 70. Quand il y a une révolte trop importante, Rome s'en charge et ils mettent en place un gouvernement purement romain. Donc c'était ça le risque, de laisser se perpétuer des troubles à Jérusalem ou ailleurs. Alors n'oublions pas non plus, on peut ne pas y penser, que Jésus était originaire de Galilée. C'est là qu'il avait vécu toute sa vie. On l'appelait d'ailleurs le Galiléen. Et c'était une région donc contrôlée par Hérode. Il n'était donc pas dans son intérêt que ce Galiléen fasse trop des siennes, car Rome risquait de lui demander des comptes, parce que Jésus était un de ses citoyens, si on peut dire ça comme ça. Il faut d'ailleurs noter que Pilate, lors du procès de Jésus, a envoyé celui-ci à Hérode, comme on refile une patate chaude, en espérant qu'il trouverait quelque chose à reprocher à son administré. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi il envoie Jésus lors de son procès à Hérode le tétrarque. Les pharisiens, quant à eux, en plus de leur prétention à être les gardiens de la pureté doctrinale concernant la loi de Moïse, étaient nationalistes. Ils voulaient un État juif gouverné par un juif. Dans ce sens, Hérode Antipas n'aurait certainement pas été leur premier choix, forcément. Car si Hérode désirait plus de pouvoir, lui et ses courtisans s'accommodaient fort bien, en somme, de la présence de Rome en Palestine, car celle-ci leur amenait aussi certains avantages, en nature, bien entendu. Ce qui n'était pas du tout le cas des pharisiens. De plus, la religion et l'observance de la loi de Moïse étaient à des années-lumière des préoccupations toutes terrestres et politiques d'Hérode Antipas et de sa clique. Il ne ménageait les pharisiens que parce que le peuple les respectait. Et encore une fois, s'ils avaient des problèmes avec le peuple, on risquait une révolte, etc., etc. Je vous passe les détails, mais avant tous ces événements, il y a eu des révoltes en Judée, même entre juifs. Et après, l'an 70, en 135, on aura une deuxième destruction totale de Jérusalem, suite encore à une énième révolte des juifs. Hein. Donc c'était vraiment un bouillon de culture, la région. Ça l'était depuis bien longtemps. Le peuple respectait donc les pharisiens. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle les pharisiens, eux aussi, voulaient la tête de Jésus. Il leur faisait de l'ombre. Le peuple écoutait Jésus plus qu'il ne les écoutait eux. En tout cas, leur enseignement était remis en question par Jésus. Vous savez, mes amis, la jalousie est un très vieux péché, mais qui a encore de beaux jours devant lui. Quelques précisions à présent sur notre deuxième groupe, les pharisiens. Vous savez sans doute certaines choses que je vais dire, mais un petit rappel ne peut pas faire de mal à qui que ce soit. Le nom pharisien vient de l'araméen perisha, qui signifie « séparé ». C'est à l'époque de Jésus l'un des trois partis juifs, les deux autres étant les Sadducéens et les Hérodiens. Je ne cite pas les Esséniens, parce que c'est une secte du désert, qui n'entre pas en ligne de compte dans nos pérégrinations actuelles. Les pharisiens étaient les plus étroits et les plus rigoureux quant à l'observance de la loi de Moïse. Ça rigolait pas, les pharisiens. Selon toute probabilité, la secte des pharisiens apparut avant la guerre des Maccabées, donc deuxième siècle avant la naissance de Jésus, par réaction contre l'inclinaison de certains juifs pour les coutumes grecques, puisque la région à l'époque était sous la domination du roi de Syrie, qui était grec. Les juifs fidèles virent avec horreur l'influence grandissante de la culture grecque, et on peut comprendre, parce que quand on impose une culture de l'extérieur, c'est la vôtre qui passe à la trappe. Ça prend peut-être un peu de temps pour le faire, mais ça finit par passer à la trappe. Comme ils avaient peur de cette déliquescence de leur culture, ils ont commencé à être de plus en plus stricts quant à l'observance de leur culture, et en particulier de la loi mosaïque. En déchaînant la persécution contre eux, contre ces extrémistes juifs, appelons-les comme ça, Antiochus IV Épiphane, donc un roi de Syrie, les poussa à s'organiser en partie de résistants. Au début, ils refusaient l'hellénisation de leur pays, et puis voyant la mainmise ou l'armée arriver sur leur terre, ils ont créé un parti de résistants armés. Alors qu'au départ, ils se contentaient de dire « Nous, c'est la circoncision, nous sommes juifs, nous aimons Dieu, nous respectons la loi de Moïse, point à la ligne. » Ce roi de Syrie, donc, Antiochus, était grec et un descendant d'un général d'Alexandre le Grand. Alexandre, quand il est mort en 332 avant la naissance de Jésus, il meurt sans enfant légitime. Donc son empire va être éclaté, va être partagé entre trois généraux. Mais ça, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça. Donc Antiochus est un des descendants de l'un de ces généraux. Il faut quand même se rendre compte que l'Antiochus en question, il a tenté de détruire les Écritures saintes. Il a ordonné de tuer quiconque serait en possession d'un livre de l'Alliance, ou suivrait la loi, ou se ferait circoncire. Ce n'est pas n'importe quoi quand même, hein. c'est du très lourd. Ça nous fait un peu penser ce qu'ont subi les protestants français sous Louis XIV après la révocation de l'édit de Nantes. Hein. Vous pouviez prendre la prison à vie pour posséder une Bible. Si, hein, je vous assure. Les chassidimes, les juifs pieux et influents, et tous ceux qui tenaient à la loi, participèrent à la révolte des Maccabées. Maccabée, c'est une famille qui ont donné la dynastie des Asmonéens. Bien que ne s'appelant pas encore pharisiens, ils en furent probablement les précurseurs. Donc, ces chassidim que l'on cite dans les deux livres du Maccabée, donc ce sont deux apocryphes pour nous, nous les considérons comme non inspirés, mais historiquement, ils sont quand même très intéressants à étudier. Donc, ces chassidim étaient probablement les ancêtres des pharisiens. Quand la guerre contre Antiochus perdit son caractère de lutte pour la liberté religieuse et a commencé à poursuivre des buts purement politiques, les chassidim s'en désintéressèrent. Ce n'était pas le but. Ils n'étaient plus persécutés. Ils pouvaient encore de nouveau vouer un culte à leur Dieu, faire circoncire leurs enfants. Pas de problème, donc la guerre pour eux s'était terminée. Ils vont donc disparaître de la scène pendant une période, pendant la période où Jonathan et Simon, des descendants de Maccabée, furent les chefs de la nation juive, entre 160 et 135 avant Jésus-Christ. En fait, le terme pharisien apparaît à l'époque de Jean Hyrcan, le fameux Jean Hyrcan dont j'ai parlé, qui a conquis tous ces pays au nord et au sud de la Judée. C'est intéressant, Jean Hyrcan était lui-même pharisien, mais il quitta leur parti et se joignit aux Sadducéens pour des raisons politiques. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là aujourd'hui. Son fils et successeur, Alexandre Janet, essaie d'exterminer les pharisiens. Il lui faisait de l'ombre. Mais sa femme Alexandra, qui lui succéda en 78 avant Jésus-Christ, reconnut que la violence n'étant d'aucune utilité contre la foi, elle favorisa les pharisiens. Elle admirait leur foi. Et dès lors, ils ont commencé à dominer la vie religieuse en Israël. Alors parlons un peu de leur doctrine aux pharisiens. Les pharisiens défendaient la doctrine de la prédestination, qu'ils estimaient compatible avec le libre arbitre, sur ce coup-là, ils étaient un peu protestants, apparemment. Ils croyaient en l'immortalité de l'âme, à la résurrection corporelle, à l'existence des esprits et des anges, aux récompenses et aux sanctions dans l'au-delà. Ils pensaient que les âmes des méchants restaient emprisonnées sous terre et que celles des bons revivraient dans des corps nouveaux. On a quand même là, en substance déjà, une partie de la doctrine chrétienne. C'est pour ça qu'actuellement, il y a encore des rabbins juifs, forcément, ils ne seraient pas rabbins autrement, qui pensent que Jésus n'était qu'un rabbin pharisien. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que dans son enseignement, il discerne l'enseignement général des pharisiens de l'époque. Voilà. Donc ces doctrines distinguaient les pharisiens des sadducéens, mais il ne faut pas se tromper. Ce n'était pas le centre, ce n'était pas au centre de leur système religieux. Et j'emploie « système religieux » volontairement. Ce système religieux reposait en effet surtout sur l'observation rigoureuse de la loi et enseignait que Dieu n'accorde sa grâce qu'à ceux qui se conforment à ses ordonnances. Jusque-là. La piété devint aussi, ainsi formaliste, la disposition du cœur ayant moins d'importance que l'acte extérieur que l'on pose. Donc c'est bien d'être très respectueux au niveau des sacrifices, par exemple, limite intérieurement, si tu es plein de jalousie, etc., ça n'est pas trop grave. L'interprétation de la loi et son application à tous les détails de la vie quotidienne prirent progressivement de plus en plus d'importance. C'est devenu une sorte de carcan. Les commentaires des docteurs juifs finirent par former un véritable code faisant autorité. Flavius Joseph, le célèbre historien juif qui fut lui-même pharisien à une certaine époque de sa vie, quand il s'appelait simplement Joseph et pas encore Flavius Joseph, j'aurai l'occasion de revenir sur lui quand nous parlerons de la prise de Jérusalem. Voilà ce qu'il écrit concernant les pharisiens. Les scribes ne se contentent pas d'interpréter la loi plus subtilement que les autres sectes, mais imposent au peuple une masse de préceptes tirés de la tradition et ne figurant pas dans la loi de Moïse. Ils ont donc rajouté des trucs, comme si on n'avait pas déjà assez dans la loi de Moïse et dans le Lévitique. Et Jésus déclara lui-même que toutes ces ajoutes, ces interprétations rabbiniques traditionnelles n'avaient rien d'obligatoire. Il dit ça entre autres en Matthieu 15. Donc les pharisiens du début, qui se sont opposés à l'hellénisation de la Judée, qui ont été exposés à la persécution, Antiochus en a fait crucifier des centaines, eh bien ces hommes se distinguaient par leur droiture et leur courage. Il faut y aller, hein, contre un oppresseur quand même. Vous risquez votre vie pour vos croyances, pour votre conviction. Ils étaient donc à l'époque l'élite spirituelle véritable de la nation juive. Malheureusement, avec le temps, le niveau moral et spirituel de leurs successeurs a eu tendance à baisser considérablement. Les points faibles de leur système devinrent prépondérants et leur attirèrent des critiques acerbes. Rappelons-nous en effet que Jésus les traita, ainsi que les Sadducéens d'ailleurs, de race de vipères. Alors pour des Juifs qui étaient tellement fiers de leur sang juif et de leur ascendance juive, se faire traiter de race de vipères, c'est-à-dire que leurs descendants étaient des vipères et que leurs ascendants aussi, quoi. C'est du lourd aussi. Mais c'est notre Seigneur qui le dit, donc il a raison. Et on n'a rien à dire à ça. Mais on n'est pas pharisien non plus, mais on peut le devenir. Cet esprit existe encore dans les églises aujourd'hui. Jésus dénonça donc leur orgueil, leur hypocrisie et leur négligence des éléments essentiels de la loi, à savoir le pardon et la miséricorde, alors qu'ils attachaient la plus grande importance, je l'ai dit, aux petits détails. Au temps de Jésus, les pharisiens forment donc un groupe sournois à l'origine du complot meurtrier contre lui. C'est eux qui sont majoritairement à la manœuvre pour mettre Jésus à mort. Il y eut cependant, et il faut le relever, parmi eux des hommes sincères, Nicodème, qui était pharisien et membre du Sanhédrin, ou Joseph d'Arimathée, qui était pharisien et membre du Sanhédrin. Avant sa conversion, rappelons que Paul aussi était membre du Sanhédrin et du parti des pharisiens. Il en fit état lors des discussions avec les Juifs, d'ailleurs. Il a mis ça en avant pour créer un pont objectif avec les Juifs non convertis. Gamaliel, son maître, donc le maître auprès duquel Paul a appris la religion de ses ancêtres, de ses pères, était aussi pharisiens. Il y a des pharisiens partout. Alors ce nom de pharisien leur venait aussi de leur caractère. On ne s'appelle pas séparé pour rien. On est séparé de quoi ? Ben de tout. De tout ce qui n'est pas pharisien et juif. Mais purement juif. Hein. Un pharisien n'aurait jamais mis un pied au pied du trône d'Hérode, par exemple. Jamais. Hein. Parce qu'il était considéré, Hérode, comme un débauché, etc. Ils avaient en effet une orgueilleuse aversion pour les païens, dont ils étaient séparés, pour les samaritains, dont ils étaient séparés, pour les collecteurs d'impôts, les pêcheurs en tout genre, etc. Ils se distinguaient, nous l'avons dit, par leur zèle servile pour les plus minutieuses prescriptions de la loi, auxquelles ils ajoutaient donc la tradition. Ils étaient ainsi l'expression vivante de l'orthodoxie juive, ce qui joint leur pouvoir, qui était réel, hein, dans le Sanhédrin, où ils étaient majoritaires, ben ça leur donnait une grande influence sur le peuple, forcément. Ils étaient de la référence absolue. On peut comprendre pourquoi ils n'aimaient pas Jésus. Avec l'arrivée du ministère de Jésus, ben, pour le peuple, la balance commence à tomber, ou à pencher plutôt, du côté du Seigneur, à leur détriment à eux. Alors, si ça vous intéresse vraiment, vous pouvez toujours acheter le livre Antiquité juive de notre ami Flavius Joseph, que je citais tout à l'heure, et vous aurez un bon panégyrique, une belle description de ce qu'étaient les pharisiens. Alors, le rôle que jouent et que vont jouer les pharisiens dans la vie de notre Sauveur, tel qu'il nous est narré dans les Évangiles, surtout dans l'histoire de ses souffrances et de sa mort, les caractérise mieux encore. C'est à eux et aux enseignants de la loi, majoritairement pharisiens donc, que Jésus adresse cette parole assez terrible et mettant en lumière leur véritable problème. Je vais prendre ce texte dans Luc 7. Pardon. Voilà ce que notre Seigneur dit en parlant d'eux. Et il fait référence d'abord au ministère de Jean le Baptiste. Qu'êtes-vous donc allé voir au désert, hein ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui à propos duquel il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Tout le peuple qui l'a entendu, et même les collecteurs d'impôts, ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. Donc, malgré tout le comportement des pharisiens et les autres, Dieu avait un plan pour eux, hein, un plan de salut pour eux aussi. Ils faisaient partie de ce plan. Encore une fois, ils sont représentés par Joseph d'Arimathée, Nicodème. Ça prouve que le groupe peut être ciblé. Ben, le groupe n'y vient pas, mais dans le groupe, ben, il y a des gens qui viendront. Les juifs, même chose. Hein. La nation juive ne s'est pas convertie, mais des juifs se sont convertis. À qui donc comparerais-je les hommes de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique qui se parlent les uns aux autres et disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants funèbres et vous n'avez pas pleuré. En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin et vous dites « Il est un démon. » Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit et vous dites « C'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. » Mais la sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants. Un peu énigmatique comme texte quand même, hein ? Non ? Je parlais du problème des pharisiens. Ben, Jésus, il va adresser, c'est en anglais ça, il va s'attaquer plutôt, c'est un anglicisme, il va s'attaquer à ce problème, au nœud du problème. Jean est venu prêcher l'évangile au travers de son baptême de repentance, c'est ce que Jésus dit, et les pharisiens ont considéré Jean comme un possédé, comme un fou. Alors que Jean était un ascète totalement consacré à Dieu, Jean, c'est un feu. Vraiment, hein, c'est un feu, c'est le feu du désert. Je rappelle que dans le désert, il y a une seule chose, hein, c'est Dieu. On comprend mieux le feu qui habitait Jean. Quant à Jésus, qui est le message incarné par Jean, les pharisiens le considéraient comme un homme de mauvaise vie, ne pensant qu'à boire et manger avec les pires personnes que comptait la société juive, en tout cas aux yeux des pharisiens. Ce que Jésus dit, c'est, il dit, le message, notre message est le même, mais habillé différemment. D'un côté, on a Jean l'ascète, l'homme du désert, et de l'autre Jésus, l'ami de tous. L'un l'abstinence et le feu du désert, l'autre l'amour et la bonté dans la proximité. Même message, deux façons de le vivre et de le transmettre du fait de l'appel spécifique de Dieu pour chacun d'entre eux. Les pharisiens ont rejeté les deux messages, ce qui signifie que ce ne sont pas les messagers le problème, mais bien le message. C'est le message qui leur pose problème. C'est Dieu qu'ils rejettent, et cela en dit long sur l'état de leur cœur. Nous avons chanté pour vous au son de la flûte et vous n'avez pas dansé, leur dit Jésus. Ce qui signifie, j'ai mené sur vos yeux une vie sans austérité, pleine de miséricorde et de l'amour de Dieu, plein de contacts avec ceux avec qui personne n'avait des contacts, et vous ne m'avez pas écouté. Plus loin, Jésus dit, nous avons pleuré, vous n'avez pas gémi. À l'opposé, il dit, Jean le Baptiste, au contraire, a mené une vie austère et mortifiée, et vous ne l'avez pas écouté non plus. De plus, je rappelle au passage que cela faisait 400 ans que Dieu n'avait pu donner de prophète à Israël. Le dernier prophète que Dieu a donné à Israël, c'est Malachie. Il termine l'Ancien Testament, notre Ancien Testament. Plus de prophètes depuis 400 ans. Ça fait 400 ans que Dieu se tait. Et dans la même période, il envoie un prophète et son fils. Et ils n'entendent rien. Donc de là, l'extrême importance que les Juifs auraient dû accorder au ministère de Jean, disant oh, « Un prophète, enfin un prophète !» Je parle des responsables religieux. Hein. Premier prophète, donc, depuis Malachie, et en même temps, dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Les prophètes, à partir de là, n'ont plus d'intérêt, si je puis dire, puisque Jésus, le Fils de Dieu, est venu terminer et révéler tout ce dont nous avions besoin. Le rejet de Jean par les autorités du Temple marque donc la désapprobation de Dieu envers eux. En rejetant Jean et en rejetant Jésus, ils ont rejeté Dieu lui-même. C'est, je le rappelle, le contenu en concentré de la parabole des vignerons. Voilà donc des représentants de ces deux factions, les pharisiens et les hérodiens, envoyés par le Sanhédrin, c'est comique, hein, toujours les mêmes hein, qui sont derrière, auprès de Jésus en vue de le coincer encore une fois. Et cette fois, ils vont tenter de piéger Jésus au sujet de l'impôt payé à César. Alors, la question est simple. Donner ou ne pas donner? Voilà. Doit-on payer l'impôt à l'empereur, de Rome? Alors, ça paraît une question un peu idiote. Hein. L'impôt, surtout à l'époque, vous aviez vachement intérêt à le payer. Mais en fait, il y a un double piège, là. Ils sont quand même malins, il faut le reconnaître ça, ils sont très malins. L'impôt, le tribut ou le cens annuel, était donc versé à César, l'empereur de Rome, qui à l'époque était Tibère. Je vous précise ça pour information. Alors, les Juifs haïssaient cet impôt, signe de leur asservissement. Et ils pensaient ne le devoir qu'au chef légitime de la théocratie juive. Ils détestaient voir la tête d'un païen sur leur monnaie. Quoi. Parce que c'est avec cette monnaie-là qu'ils devaient payer l'impôt. Alors, ce qui est très drôle quand on y songe, puisque Dieu ne reconnaissait pas les chefs de nation juive en place à l'époque de Jésus. Eux ne reconnaissent pas l'autorité de Rome, mais Dieu il ne reconnaît pas non plus l'autorité d'une pseudo-théocratie juive, puisqu'il l'a mis par terre. S'il y a des Romains, c'est que Dieu n'en voulait plus de cette pseudo-théocratie juive. Rappelons qu'une théocratie, c'est un système avec Dieu à la tête. Ça n'a jamais été le cas d'Israël, hein, ou très peu. Donc si Jésus tranchait la question en faveur de l'impôt, il dit si, il faut payer l'impôt, les pharisiens n'auraient pas manqué d'exciter contre lui la haine et le mépris du peuple en le représentant comme un partisan des Romains. Il perdait l'appui du peuple. D'accord ? Si au contraire il se prononçait contre l'impôt, les Hérodiens, qui étaient un peu main dans la main avec les Romains, auraient témoigné contre lui et l'auraient fait condamner par le procurateur romain comme excitant le peuple à la révolte contre Rome. Parce que ne pas payer l'impôt à Rome, c'était considéré comme une révolte envers Rome. La réponse de Jésus est assez extraordinaire. Bon, on la connaît tous par cœur, je pense, mais ça n'empêche pas qu'elle reste extraordinaire. Rendez à César ce qui est à César, donc à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce que vous devez à Dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Marc a seul cette construction qui attire tout d'abord l'attention sur la distinction à faire entre les choses de la politique et celle de la religion, entre les devoirs du citoyen et ceux du croyant, entre le temporel, ce qui est de la terre, et le spirituel, ce qui est du ciel. Par cette parole, Jésus n'exprimait pas seulement une profonde vérité, mais il sortait victorieux du piège que lui tendaient ses adversaires. En même temps, il brisait leur alliance momentanée, car les pharisiens ne voulaient pas rendre à César le tribut qui lui appartenait, qui lui revenait. Et les Hérodiens, mondains donc et frivoles, nous l'avons dit, étaient tout aussi peu disposés à rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire leur cœur et leur vie. L'image et l'inscription que portait la monnaie qui avait cours dans le pays était la preuve palpable de la domination et du droit de César. Il fallait donc payer l'impôt et remplir toutes les obligations civiles du citoyen envers le souverain. Mais d'autre part, Dieu restait le souverain de son peuple. D'accord ? Chaque âme porte son image et son inscription. Et c'est donc à Dieu qu'il s'agit de rendre tout ce qui lui est dû. Non seulement le tribut pour le service du temple à l'époque, mais aussi l'honneur, l'adoration, le cœur, la vie entière. C'est vrai que les Juifs, ils payent deux impôts, enfin deux, même plus. En gros, un impôt à Rome et un impôt à leurs autorités, à eux et au temple. Ça veut dire quand même beaucoup d'impôts. Donc par ces paroles, quand on réfléchit, Jésus ne tranche pas la question de la légitimité de la domination romaine. Il est d'ailleurs possible que comme Juif, il déplorait la conquête de son pays parce qu'il en connaissait le sens. Mais il voulait surtout que son peuple considère son asservissement comme un châtiment de Dieu et qu'il s'en humilie. C'est pour ça qu'il y avait des Romains en Judée. C'est pour ça que les Juifs n'avaient plus la main mise sur leur propre pays. C'est parce qu'ils subissaient le châtiment, le jugement de Dieu. Et la seule réponse à ça, et c'est le message de Jean-Baptiste, il faut que vous demandiez pardon à Dieu. Vous voulez donc, résumons, vous voulez plus de Romains ? Eh bien, demandez pardon à Dieu, sincèrement. Et accueillir son fils. Jésus pose donc ici le principe important et profondément biblique qu'un pouvoir qui existe de fait, quelle que soit la nature de ce pouvoir, je ne parle pas de démocratie, quelle que soit la nature de ce pouvoir, doit être reconnu comme autorisé ou permis par la providence divine. Aucun pouvoir terrestre n'est installé sans que Dieu ne le permette, même les dictatures. Bon, je rappelle ça, il y a d'autres passages. Romains 13, verset 1. Que chacun, à l'époque, ce n'est pas des démocraties, les enfants. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Parce que derrière la réflexion, c'est sans gouvernement terrestre, quelle que soit sa nature, il n'y a pas de vie sociale et communautaire possible. C'est l'anarchie. L'anarchie, c'est quoi ? Ni Dieu, ni maître. Donc, ce n'est pas de Dieu, mais pas de gouvernement non plus. Et c'est surtout le pouvoir aux imbéciles. Autrement dit, rien ne se passe sans que Dieu le permette, et il veut ce qu'il permet. Il ne faut pas le voir, oui, je permets. Oui, je permets, quoi. Non. Il veut ce qu'il permet. Donc la domination romaine sur la terre d'Israël avait été permise par Dieu, et il fallait en tirer les enseignements, ce que de toute évidence, le peuple juif n'avait pas fait. Alors, je fais une petite parenthèse. Les chrétiens que nous sommes sont aussi tenus de se soumettre à ce principe que rien n'arrive sans l'accord de Dieu et qu'on ne peut dès lors pas avoir recours à des moyens illégaux ou violents pour s'y soustraire. Nous serions en dictature, ce que certains prétendent déjà d'ailleurs, ça mourrait de rire, mais nous serions en dictature, ça ne nous donnerait pas l'autorisation d'aller donner des coups de matraque aux gens qui défendent ces dictatures. Ou de les faire sauter dans des bus, n'est-ce pas ? Mais cette parole de notre Sauveur établit également la distinction entre les deux sphères du temporel et du spirituel, des droits de César et des droits de Dieu. Cette séparation, vous le savez comment, au niveau de l'histoire de l'Église, l'Église s'est perdue en cours de route. À un moment, l'Église a revendiqué de maîtriser les deux pouvoirs, et le spirituel et le temporel. L'Église s'est mêlée des choses de ce monde, avec les résultats qu'on connaît. Il y a donc deux temporalités, une temporalité temporelle, une temporalité céleste. Et le seul cas où cet équilibre peut être rompu, où un chrétien par exemple, un croyant peut dire ça je m'y refuse, c'est quand on touche au domaine de la conscience. C'est quand le pouvoir temporel a la prétention d'empiéter sur les droits de la conscience qui sont ceux de Dieu. Et dans ce cas-là, il faut faire comme les apôtres l'ont fait, Jean et Pierre en tête, quand ils ont refusé d'obéir à l'injonction du Sanhédrin qui leur demandait de ne plus prêcher cette doctrine. Ils ont dit, nous devons obéissance à Dieu et non pas aux hommes, parce que le Sanhédrin, dans ce cas-là, leur demandait de ne pas faire ce que Dieu leur demandait de faire. Et c'est le seul cas où il faut se rebeller pacifiquement. Vous dites non, mais il faut être vraiment sûr que c'est la volonté de Dieu. Je pense qu'il faut que nous nous rappelions de tout cela, surtout à notre époque, lorsque nous râlons contre nos gouvernants. Les Belges sont, il n'y a pas que les Belges, il y a pire, il y a les Français, mais les Belges sont quand même limitrophes avec la France, et je pense qu'on est fort influencés. Car je rappelle quand même que pratiquement, Dieu ne nous appelle pas à râler, mais à prier pour nos autorités et à nous soumettre à elles. Alors comment j'entends des non-chrétiens dire « Ouais, moi je fais pas ci, moi je m'en fous, ils disent ce que je dis, c'est tout. » Moi j'ai pas de problème avec ça, ils sont non-chrétiens. Quand des chrétiens le disent, j'ai un problème avec ça. Enfin, j'ai un problème. Je pense que Dieu a un problème avec ça. Donc si je devais résumer toute la scène, la dernière que je viens d'exprimer, je dirais que la pièce de monnaie porte l'effigie de César et elle appartient donc à César. Elle doit lui revenir puisqu'elle porte sa tête, si je peux dire. L'homme, et en l'occurrence ici les pharisiens et les hérodiens, qui tentent de piéger Jésus, appartiennent à Dieu, car ils portent l'image de Dieu. Donc ils refusaient de payer l'impôt imposé par Rome, mais ils refusaient aussi de payer l'impôt d'amour qu'ils devaient à Dieu. Et ici encore, le texte de Marc termine en disant que le peuple fut soufflé par la sagesse de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que le temps utilisé dans le grec suggère que cet étonnement était permanent, qu'il durait depuis le commencement du ministère de Jésus. Le peuple était, les gens étaient émerveillés par ce que Jésus disait et par les réponses qu'il donnait aux différentes interrogations qu'on pouvait lui soumettre. Alors Jésus n'en a pas encore fini avec ses différents opposants, car un groupe manque encore l'appel. Un groupe qui n'a pas encore essayé de le faire tomber, ce sont les Sadducéens. Mais ça, vous vous en doutez, c'est pour dimanche prochain. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.